Les élus du Congrès étaient réunis aujourd'hui pour examiner différents textes. Certains ont été adoptés, d'autres rejetés, mais aussi renvoyés. On fait le point en début de journal. Justice, un Calédonien de 27 ans, condamné à un an de prison avec sursis pour entrave à la circulation. Il était jugé pour avoir tenu un barrage de la CCAT à la coulée au mois de mai. Elle était attendue de tous. La rentrée des élèves au collège de Tuban s'est déroulée ce matin. Après 3 mois de fermeture, c'est le sourire aux lèvres qu'enseignants et collégiens se sont retrouvés. Et enfin, vous l'avez sûrement remarqué, il a fait très chaud ces derniers jours. Des chaleurs exceptionnelles dues à un anticyclone sur la mer de Tasman. Mais cet épisode est désormais derrière nous. Les températures devraient redescendre en fin de semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Et justement, l'actualité dans la région pour ouvrir ce journal. Et selon nos informations, la mission que les représentants du Forum du Pacifique devaient effectuer en Calédonie n'aura pas lieu d'ici la fin de la semaine, comme ce devait être le cas, Jean-François Baudin.
On apprenait en effet hier d'une source proche de l'État que l'organisation de cette mission patinait. Le comité d'organisation tripartite entre l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le FIP destiné à préparer cette mission n'a jamais pu se réunir. Le président du gouvernement, Louis Mapou, qui est pourtant à l'origine de cette initiative de faire venir une délégation du forum, a en effet refusé de participer au comité d'organisation et sans l'un des trois partenaires, la mission ne peut avoir lieu. Selon nos informations toujours, les représentants du forum ont donc pris acte de cette situation. Ils n'ont toujours pas annulé la mission, mais ils attendent désormais que les choses se clarifient entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La mission est en quelque sorte suspendue. Malgré ces contretemps, l'État a de son côté rappelé qu'il était toujours disposé et prêt à accueillir cette mission d'observation et d'information si elle devait se concrétiser. Quoi qu'il en soit, il est désormais sûr que la venue des représentants du Forum du Pacifique sur le territoire ne pourra pas avoir lieu avant le sommet du Forum, prévu du 26 au 30 août à Tonga.
Et le Premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka, qui devait faire partie de la mission du Forum des îles du Pacifique en Calédonie, poursuit pendant ce temps sa visite en Chine. Il a rencontré son homologue chinois Li Qiang pour renforcer les liens entre les deux pays. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
À l'issue de son entretien avec Li Qiang, Sitiveni Rambuka a annoncé que la Chine s'est notamment engagée à soutenir le développement des infrastructures fidjiennes, concentrera ses efforts sur la réduction de la pauvreté, la revitalisation rurale et la connectivité terrestre et maritime. Sitiveni Rambuka a également déclaré que, je le cite, « la politique d'une seule Chine a été la pierre angulaire de nos relations diplomatiques avec la Chine, laquelle s'est tenue à nos côtés lorsque nos partenaires traditionnels se sont détournés de nous après les événements de 1987, 2000 et 2006. » L'engagement de la Chine est de renforcer les relations fortes et durables qui unissent nos deux nations, a déclaré Li Qiang en réponse. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et je vous le disais en titre, les élus du Congrès étaient réunis aujourd'hui pour examiner différents textes. Une proposition de loi du pays relative au régime des prohibitions à l'importation et à l'exportation a notamment été adoptée. Mais la séance aura surtout été marquée par la proposition de résolution présentée par Maria Isabella Saliga-Lutovica, synonyme de rupture dans le fonctionnement de l'institution, Gilles Ménage.
Une mascarade, des propos outranciers, un spectacle navrant, indigne. Les qualificatifs ont fusé après la présentation du contenu de la résolution présentée par Maria Isabella Saliga-Lutovica, qui siège, rappelons-le, hors groupe et qui concerne, je cite, « l'effacement de toute la dette sans condition de la Nouvelle-Calédonie auprès de l'État au titre de la réparation ». Et surtout, après ces nombreux propos accusant l'État et les forces de l'ordre de violence à l'encontre des émeutiers, le point de rupture a été atteint quand Maria Isabella Saliga-Lutovica a accusé le secrétariat général du Congrès d'avoir volontairement fait obstruction à son texte déposé 4 mois auparavant. Philippe Gomez et Sonia Baquès notamment ont dénoncé avec véhémence les propos tenus par l'élu avant que Philippe Michel n'en demande la censure.
Des sanctions fermes et exemplaires devront être appliquées car je crains que notre institution n'abrite une forme de voyoucratie qui pourrait gravement nuire à la crédibilité de notre Congrès.
On ne peut pas prendre à partie les fonctionnaires comme ça, mais on est fous là, cette Venezuela, stop, stop.
Madame Saliga-Lutovica, S'il vous plaît, Monsieur Gomez, c'est pas vous qui présidez la séance.
Non, mais il a raison, Madame la Présidente. À chaque fois que vous lui faites la remarque, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Vous lui dites d'arrêter, elle recommence à chaque fois. Elle se fout ouvertement de cette institution. Et là, elle attaque les fonctionnaires. Mais on a vu ça où ?
Nous demandons, en application des articles 90, 91 et 92 du règlement intérieur, la censure au procès verbal, ainsi que de l'enregistrement Internet de tous les propos qui sont hors sujet et en contradiction et en violation flagrante avec le règlement intérieur.
Auparavant, Maria Isabella Saligaloutovica avait, au moment de la lecture de son texte, accusé directement Sonia Backès d'avoir provoqué les émeutes déclenchées le 13 mai dernier, laquelle a choisi de la mettre en face de ses contradictions.
Madame Saligaloutovica a affirmé à Bakou que la France était un pays terroriste. Je cite. Quand on affirme que la France est un pays terroriste, eh bien on ne vient pas lui demander de l'argent. Si on veut demander de l'argent à la France, eh bien on assume d'être français et de demander la solidarité nationale. Ça s'appelle la cohérence politique. Donc je l'ai dit, la situation est trop grave pour qu'on ne prenne pas un minimum de hauteur et qu'on ne soit pas un minimum cohérent. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 40% de la population qui est soit au chômage, soit au chômage partiel. Et on a la deuxième vague qui arrive parce qu'on a encore des entreprises qui n'ont pas brûlé, qui n'ont pas été pillées et qui, faute de travail et parce que beaucoup de consommateurs sont partis, eh bien, elles ont une baisse énorme de leur chiffre d'affaires et elles ne vont pas pouvoir continuer leur activité.
Au cours de son exposé, Maria Isabella Saligaloutovica a encore affirmé que la richesse pays, à savoir le nickel, avait, je cite, été pillée depuis 171 ans par le système colonial et conclut qu'un refus de la métropole conduirait à un basculement dans l'indépendance immédiate et au départ de la France. Fin de citation. Et si Jacques Lalli a suggéré lui aussi l'existence d'une dette coloniale, Jean-Pierre Jaïwe a indiqué au nom de l'UNEPALICA que son mouvement ne s'inscrivait pas dans cette tendance.
Nous faisons partie d'un groupe qui est reconnu ici, dans cet hémicycle, un groupe indépendantiste. Moi, je suis issu des rangs d'un parti qui a été créé spécialement pour mener un combat pour l'indépendance de son pays, de ce pays. Mais nous avons été créés pour parvenir à un combat digne. Le droit à l'indépendance, c'est un droit qui est reconnu sur le plan international. Et c'est le combat pour la dignité de l'homme. Mais ce n'est pas pour ensuite arriver au pouvoir et mendier. Il y a quelqu'un bien connu qui disait ceci, on ne va pas sortir par la grande porte et revenir par la fenêtre pour mendier. Ce n'est pas la position que défend le parti auquel j'appartiens.
Le projet de résolution de Maria Isabella Saligaloutovica a été rejeté. En revanche, les élus ont approuvé la censure des propos enfreignant le règlement du Congrès et approuvé la tenue d'une conférence des présidents de groupe dans l'objectif de redonner de la tenue au débat.
Et Gilles, un premier texte sur le régime des prohibitions à l'importation et à l'exportation a été adopté ce matin par les élus du boulevard Vauban. Il vise à répondre à deux situations particulières.
La première de ces situations est d'ordre sanitaire et concerne l'importation de poulets congelés en provenance des États-Unis ou du Brésil et contenant du chlore, des produits potentiellement nuisibles pour la santé. En filigrane, le texte émet le vœu d'une relance de la filière locale. La seconde situation est culturelle et vise les copies d'œuvres kanak importées notamment des pays asiatiques pour apportant préjudice aux pièces originales et plus généralement au patrimoine culturel kanak. Ces deux types d'importations seront désormais interdits. L'accession du Congrès de la Nouvelle-Calédonie au groupement d'intérêt public Conseil de l'accès aux droits de la Nouvelle-Calédonie a également été adoptée. Elle permettra aux populations les plus modestes de bénéficier de services juridiques de toute nature. Enfin, une modification du règlement intérieur a été votée afin de faire face à la multiplication des demandes de sessions extraordinaires.
Et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a ensuite examiné un projet de résolution déposé par Calédonie Ensemble, un document qui demande à l'État d'adopter un plan quinquennal d'accompagnement financier afin d'éviter une catastrophe économique et sociale sans précédent.
500 milliards de francs sur 5 ans, c'est le montant nécessaire pour éviter le naufrage selon Calédonie Ensemble. Une somme astronomique qui recouvre les besoins de financement des indemnités de chômage partiel ou total jusqu'en 2029, la reconstruction des entreprises et des infrastructures publiques détruites, estimée à elle seule et à ce jour à 195 milliards, la compensation des pertes fiscales et le sauvetage des services publics essentiels tels que les transports publics ou encore la production d'énergie électrique. Un constat chiffré, partagé par tous les élus, mais pas forcément sur la forme, c'est-à-dire sur la manière de présenter les choses. Le groupe loyaliste a donc proposé et obtenu le vote d'une motion préjudicielle qui renvoie le texte en commission, le temps de permettre au groupe politique de parler à l'État d'une seule voix. Une unanimité nécessaire, estime le chef du groupe Calédonie Ensemble, Philippe Michel.
Cette motion préjudicielle, elle permet d'entrevoir une unanimité des élus du Congrès sur l'urgence totale et absolue à adresser un message fort à l'État pour sauver ce qui peut encore l'être avant l'effondrement. Et donc j'espère que dans les jours à venir, parce qu'on est décidé à battre le fer quand il est chaud, on espère qu'effectivement ça nous conduira vers l'unanimité parce qu'il y a une urgence totale.
Et si l'urgence de l'intervention de l'État est reconnue par tous, il faut aussi que chacun prenne conscience qu'il y a des préalables, affirme le député Nicolas Metzdorf.
Le préalable à un retour au développement économique durable de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'accord politique. C'est l'accord politique. Mais entre maintenant et l'accord politique, il y a une situation qui est totalement dégradée pour des dizaines de milliers de Calédoniens, des chefs d'entreprise, des salariés et tout simplement les consommateurs calédoniens. Donc en attendant l'accord politique, il faut que l'aide de l'État puisse être conséquente de manière à ce qu'on tienne le coup. L'intérêt pour nous, c'est de trouver le juste milieu, c'est-à-dire l'aide optimisée dont on a besoin de la part de la France pour continuer à pouvoir vivre décemment tout en ayant la responsabilité de trouver un accord politique rapidement.
Et pour le groupe Rassemblement, il faut absolument souligner le caractère durable de la reconstruction, explique Virginie Rufnac.
Il faut être sûr que ce qu'ont subi les Calédoniens ne se reproduise plus jamais et que l'argent qui soit mis dans la reconstruction soit effectif pour une reconstruction durable. Ça veut dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de retravailler pour qu'il y ait un accord politique global au niveau du Congrès, de tous les groupes politiques de la Nouvelle-Calédonie, de façon à ce que l'accompagnement indispensable de l'État, qui a une responsabilité morale et matérielle en Nouvelle-Calédonie, parce que nous sommes Français, eh bien ces fonds investis servent à une reconstruction véritablement dans la stabilité et la sérénité.
Côté indépendantiste, la motion a également été adoptée pour le chef du groupe UC FLNKS et nationaliste Pierre-Chanel Tutugoro. Il faut parler d'une seule voix aux Calédoniens et à l'État.
C'est nécessaire pour qu'on puisse s'assurer de l'efficacité de la démarche, non pas seulement localement, mais au niveau de l'État, mais aussi pour pouvoir donner des messages rassurants auprès de la population calédonienne et surtout auprès des entrepreneurs et des entreprises qui ont besoin d'être rassurés pour reconstruire. Là, il est question aussi de travailler sur les réformes des modèles. Donc forcément, quand on parle de réformes des modèles, on parle aussi d'une vision à court, moyen et long terme.
Encore faut-il, pour voir plus loin, que le minimum de stabilité soit garanti. C'est ce que demande précisément l'État à la Nouvelle-Calédonie, selon Philippe Blaise.
Ce que l'État nous dit, par la voix de la ministre de l'Outre-mer qui est venue faire une visite informelle récemment, c'est on se demande si on doit mettre de l'argent chez vous, si vous continuez à détruire, s'il n'y a pas une volonté de préserver la stabilité de la Calédonie. Donc, à minima, c'est ça. À défaut d'accord institutionnel, c'est à minima que l'ensemble des forces politiques élus démocratiquement, s'engage à ce qu'il n'y ait plus de violence, à ce qu'il n'y ait plus de perturbation de l'économie, parce qu'on voit aujourd'hui les conséquences, et on voit bien qu'une partie de la classe politique qui a encouragé la CAT est très gênée aujourd'hui, parce qu'elle n'avait peut-être pas perçu les conséquences dramatiques pour l'ensemble de la population. Donc je crois que cette prise de conscience, elle doit nous permettre de faire en sorte qu'on crée les conditions pour qu'on regagne la confiance de l'État, qui est le seul aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a que la France aujourd'hui qui peut sauver la Nouvelle-Calédonie.
C'est maintenant la commission permanente du Congrès qui va tenter de trouver une version de ce texte qui fasse l'unanimité. Une résolution du Congrès qui n'a pas de valeur juridique, mais les élus espèrent qu'elle pèsera son poids dans les négociations à venir avec l'État.
Merci Gilles Ménage. 18h pile, l'heure de refermer cette page presque entièrement consacrée à la séance du Congrès. Et nous partirons ensuite du côté de la justice après la pause. Je vous dis à tout de suite.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, Agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, Léana Colombo.
et un fait divers à Lifou. Un homme d'une trentaine d'années gravement blessé tôt ce matin dans le district de Gaïcha. Il s'est endormi sur le bas-côté. Une voiture a tenté de l'éviter, mais elle lui a roulé sur le bas du corps. L'accident a eu lieu sur le bord de la route entre Douéoulou et Apétra. Transporté dans un premier temps au dispensaire de Houé, il a ensuite été évacué en hélicoptère au Médipôle. Et puis, un an de prison avec sursis pour entrave à la circulation. Un Calédonien de 27 ans était jugé pour avoir tenu un barrage de la CCAT à la coulée mi-mai. Il était aussi poursuivi pour le vol d'un véhicule de police le 19 mai. Vol qu'il a contesté et pour lequel il a été relaxé, faute de preuves, Nicolas Legrand.
Oui, ce jour-là, la police est appelée pour un départ de feu sur un poteau électrique à la coulée. Dans l'équipage de ce pick-up se trouve la chef de la police municipale du Mont-d'Or, le directeur de la sécurité de la commune et un agent. Lors de leur contrôle, ils sont victimes d'un carjacking par une bande d'individus cagoulés munis de sabres d'abattis qui les menacent de les brûler vifs s'ils ne sortent pas du véhicule. Leur meneur ne serait autre que Banane Ouamitan qui a été, on le rappelle, mortellement atteint par un tir de riposte le mois dernier à Saint-Louis. Les policiers s'exécutent et alors qu'ils tentent de rejoindre la coulée à pied, les émeutiers prennent le contrôle du véhicule. S'ensuit une série de burn et de gymkhana. Un rodéo de courte durée puisque le véhicule sera rendu seulement quelques minutes plus tard. À la barre ce matin, ce Calédonien nie avoir participé à ce vol avec violence. Au contraire, il a même prétendu qu'il s'était senti investi d'une mission par pitié par les agents de police. Il a déclaré avoir stoppé les jeunes dans la voiture volée pour les restituer, donc pour la restituer aux policiers. Malgré les témoignages des agents qui étaient absents ce matin du procès, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner pour ce vol qu'il nie. L'homme qui se présente comme un militant indépendantiste pacifique reconnaît avoir entravé la circulation. Il a été condamné pour ces faits à un an de prison avec sursis.
Et puis, des peines de prison ferme pour deux émeutiers accusés de violence sur gendarmes. Les faits s'étaient produits la semaine dernière à Poya. Le premier prévenu, âgé de 18 ans, participait le 13 août à un groupement armé au bord de la route. Il a été reconnu coupable d'un caillassage extrêmement violent, puisque trois gendarmes ont été blessés, dont une femme grièvement touchée, qui garde aujourd'hui encore de lourdes séquelles. Il avait aussi frappé les gendarmes lors de son interpellation. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme. L'autre prévenu, âgé de 28 ans, a été condamné à 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Pardon. Il sera convoqué ultérieurement par le juge d'application des peines. Le 16 août, il avait pris à partie les forces de l'ordre. Un gendarme avait été blessé d'abord par un jet de pierre, puis lors de l'interpellation de l'individu. Et notez également que c'est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouvelle-Calédonie qui sera notre invité demain matin à 7h30. L'occasion de revenir avec Maître Philippe Reuter sur le nombre très important de procédures que doivent absorber les avocats, les conditions de la défense des prévenus mais aussi des victimes, comment travaillent les avocats depuis le début des événements. Réponse demain à 7h30 sur RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, alors que Lagoon est victime d'une cyberattaque, la Nouvelle-Calédonie est-elle, selon vous, une cible privilégiée dans le contexte particulier que nous connaissons depuis 3 mois? Si vous pensez qu'actuellement la Nouvelle-Calédonie est une cible privilégiée, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 56% des auditeurs de RR qui se sont exprimés par SMS n'approuvent pas la décision d'autoriser depuis hier la vente d'alcool à emporter sous certaines conditions. Ils sont 44 à approuver cette décision.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Parlons maintenant de la détresse des habitants du Mont d'Or Sud. C'était au sommaire de notre magazine Citoyen ce midi. Et vous receviez Gilles Ménage, le secrétaire général adjoint de la mairie du Mont d'Or, Jean-Charles Cartégini, le président de l'association Citoyen Mondorien, Florent Perrin, et plusieurs habitants du Mont d'Or Sud.
Depuis plus de 3 mois, 104 jours exactement, le sud de la Grande Terre est coupé du reste du territoire. Et les quelques 12 000 habitants du Mont d'Or Sud ont dû réorganiser toute leur vie. Ils sont désormais tributaires du transport maritime, entre les navettes pour le transport des personnes et les barges pour le ravitaillement, avec tous les aléas d'une telle situation. Vous avez pu entendre des témoignages poignants d'ailleurs de plusieurs d'entre eux. Sylvie Fernandez gère une crèche-garderie et son activité pourrait être remise en cause totalement. Elle a exprimé son incompréhension face à une telle situation aujourd'hui en France.
de l'histoire de la République. Je ne pense pas qu'il soit déjà arrivé que 12 000 personnes soient prises en otage. On fait partie de la France, on fait partie de la République. Il est bien inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la libre circulation de la population. Donc rien que ça, quand on a dit ça, on a tout dit. Comment on peut expliquer en 2024 que toute une partie d'une population soit privée de ses droits fondamentaux ? Comment on l'explique ? Moi, ça me paraît effarant qu'on nous laisse comme ça.
Une situation dont la municipalité est parfaitement consciente, souligne le secrétaire général adjoint de la mairie du Mont-d'Or, Jean-Charles Carteghini. Il nous a annoncé que le maire Eddy Lecourieux avait saisi le président de la République pour essayer de concrétiser le projet de route de contournement.
On a, dès les premiers instants, fait un point quotidien sur ce qui se passait sur le terrain, en détail. Et puis, dans les projets, la route qui est demandée aujourd'hui, ça fait déjà un moment que la commune du Mont-d'Or la demande. Aujourd'hui, c'est une instance auprès du président de la République que le maire demande. Il a envoyé un courrier pour faire un nouveau état de ce qui se passe sur le Mont-d'Or Sud et pour appuyer le projet qui est cette route de contournement qui permettrait de désenclaver et qui est certainement la seule solution pour désenclaver le Mont-d'Or Sud. J'ajoute que dans les projets de la commune, mais dans l'actuelle municipalité, on continue à porter le projet du transport maritime qui était un sujet du SMTU qui maintenant est repris par la commune du Mont-d'Or, c'est-à-dire avec un premier projet qui consiste à endiguer pour protéger et créer une marina au Vallon d'Or.
Tout le monde convient en effet que les navettes, si elles sont utiles, ne peuvent être qu'une solution transitoire. John Lefort, qui travaille à Païta, a ainsi expliqué qu'il ne voit plus sa famille depuis 3 mois parce qu'il est trop compliqué de compter sur le transport maritime pour effectuer les déplacements. Beaucoup de désarroi donc chez ces habitants du Mont-d'Or Sud et ils n'ont pour l'instant que peu de perspectives, même si leur souhait c'est de rester au Mont-d'Or en attendant qu'une solution soit enfin trouvée, comme le déclare Thierry Saint-Jalms. Il est architecte décorateur d'intérieur et il rencontre déjà de nombreux problèmes économiques.
C'est un choix de vie au départ. Ça fait 20 ans que je suis sur la commune du Mont-d'Or. Bah, effectivement, hein, un cadre de vie qui est quand même vachement agréable. Quoi. Non, après, bah, voilà, on y tient, on y est attaché. Bah, on a des amis, on a pas mal de choses. On a une partie de notre tissu social, en plus de celui de Nouméa, qui existe là-bas. Bon, après, effectivement, de toute façon, il faut quand même voir la réalité en face. La dévalorisation de nos biens par ces exactions et puis par cette prise d'otage que nous subissons, nos biens, ils ne valent plus rien. Donc, tant qu'on les a pas vendus, on n'a pas perdu d'argent. Donc, c'est tout. En fait, globalement, là, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux investissements qu'on a faits, on ne peut que garder nos biens, quoi, parce qu'autrement, on perd de l'argent, quoi. Ça va être catastrophique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est malheureusement ça, quoi.
Un magazine citoyen dont vous pouvez retrouver l'intégralité en audio sur notre site internet rrb.nc. Et cet après-midi, une délégation de l'Association des citoyens mandoriens a été reçue par le haut-commissaire Louis Lefranc. Une réunion de 3 heures et à la sortie, le président de l'association, Florent Perrin, en retient 3 points.
On a eu une discussion franche sur la situation des mandoriens et même si on n'a pas de date à donner, au moins on sait que des solutions sont à l'étude. Des solutions qui vont permettre aux mandoriens de circuler en sécurité sur la RP1. Voilà. Après, on n'a pas les solutions qui vont être mises en place, mais l'objectif que souhaite atteindre l'État, c'est de sécuriser la route. Donc le deuxième point, c'était le côté sanitaire qui, pour nous, était très important. Donc le haut-commissaire nous a annoncé la mise en place d'un médecin dès ce week-end sur le Mont-d'Or Sud, ce qui va permettre, notamment pour les urgences, d'avoir une assistance, parce qu'aujourd'hui, on n'a personne en cas de problème au Mont-d'Or. Et enfin, le troisième point, c'était des perspectives à plus long terme. Le haut-commissaire nous a donné l'assurance que la décision était bien entre les mains du président de la République pour notre pont et qu'on attendait de sa part qu'il décide si on pouvait avancer sur ce sujet.
À l'Association des citoyens mondoriens et le haut-commissaire qui ont prévu de se revoir régulièrement, notamment après la nomination d'un nouveau gouvernement.
Et dans cette période difficile pour beaucoup d'entre vous, RRB continue de vous accompagner et de faire des heureux grâce à notre jeu du million. Et bravo à Émilien de Népouy qui a envoyé RRB au 40-20 ce matin, un SMS gagnant qui lui permet de remporter un bon d'achat de 100 000 francs à dépenser dans les enseignes de son choix. Et vous aussi, vous pouvez tenter votre chance et pourquoi pas remporter un bon d'achat de 100 000 francs. Il vous suffit pour cela d'envoyer RRB au 40-20. Allez, 18h10, c'est sur cette bonne nouvelle que nous marquons une deuxième page de publicité et je vous dis à tout de suite.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Oui, après 3 mois de fermeture suite aux exactions dans le quartier, le collège de Tuban a enfin rouvert ses portes aux élèves ce matin, Jean-François Baudin.
400 élèves ont effectivement repris les cours ce matin au collège de Tuban, un jour après le retour du personnel éducatif. Avant 7h, une collation a été offerte à l'entrée du collège, puis la sonnerie a retenti. Les élèves se sont rangés avant de suivre leurs professeurs jusque dans leur classe, comme une rentrée normale pour David Bernouy, le principal du collège.
Une rentrée tout à fait normale, selon les emplois du temps d'avant. Coup de sourire ce matin, les élèves sont contents de revenir dans leur établissement. Les professeurs sont présents à l'entrée pour les accueillir. Et puis voilà, les forces de l'ordre nous ont signalé qu'il n'y avait eu aucun problème dans la nuit. On est ravis. Tout le monde s'est activé, les entreprises, tous nos partenaires ont fait en sorte que le collège soit prêt pour l'arrivée des élèves. Et donc, la vie reprend normalement.
Les élèves retrouvent donc enfin leur établissement alors que depuis quelques temps, ils étaient accueillis dans d'autres collèges, notamment Magenta, Baudoux ou encore Mariotti.
Ouais, je suis contente, c'est cool. J'ai pu retrouver mon casier et mon collège aussi, c'est super.
Oui, ça fait du bien de retrouver son collège. On est habitué à ce collège, du coup, c'est un peu comme notre repère, c'est là où on se sent le mieux. Donc, bien sûr, ça fait plaisir de rentrer ici. Après, on était très bien aussi au collège de Mariotti, mais c'est quand même là qu'on est le mieux, je trouve.
C'est vrai, c'est mieux ici. C'est pas pareil.
Les élèves étaient donc heureux de retrouver leur collège ce matin et leurs parents forcément soulagés que les enfants reprennent un enseignement normal. Et c'est ce qu'ils demandaient depuis plusieurs semaines. Ils avaient même lancé une pétition en ligne. Cédric Pellosato est le président de l'association des parents d'élèves du collège Tuban.
Très content, très satisfait. On voit que tous les enfants et les parents ont le sourire. Ça se fait vraiment de la bonne humeur et enfin le soulagement de les ramener dans leur collège et face à leurs professeurs en temps complet. Par beau temps en plus, donc je ne sais pas si c'est un bon signe, mais je pense que oui. Tout ce qui avait été annoncé a été fait, que ce soit le nettoyage des abords, les présences des forces de l'ordre également au niveau des abords, permettant aux enfants d'y aller sereinement et aux parents de les laisser sereinement également. On espère que maintenant, c'est le point de départ maintenant d'un retour à la normale. Les inscriptions sur le mur ont été effacées. On espère que ça sera de façon pérenne maintenant. Mais de toute façon, ça sera repeint à chaque fois.
L'ouverture du collège ce matin a été possible après plusieurs semaines de préparation de la mairie ou des forces de l'ordre, nettoyage et réparation des routes, nettoyage également des tags sur les murs et les sols ou encore fermeture de logements occupés illégalement aux alentours de l'établissement scolaire.
Merci Jean-François Baudin. Et vous le savez, les transports en commun terrestres sont toujours à l'arrêt sur le territoire, mais des solutions maritimes existent. C'est le cas des navettes mises en place depuis plus d'un mois par l'Agence calédonienne de l'énergie. Et ce matin, l'ACE a fait le bilan du premier des 3 mois d'expérimentation de ces navettes entre Port-Moselle, Nouville et Numbo. Un bilan très satisfaisant pour Perrine Tribali, chargée de projet énergie à l'Agence calédonienne de l'énergie, puisque plus de 2000 passagers ont emprunté ces navettes. Des étudiants, des employés d'entreprises situées à Numbo, mais aussi des habitants de la presqu'île de Nouville. Perrine Tribali confirme que l'ACE s'est adaptée au fil des jours à la demande des passagers.
On se laissait le temps de voir effectivement l'appétence. En fait, c'est vraiment l'objectif d'un projet expérimental, c'est de tester l'appétence des usagers à ce nouveau service, à ce nouveau mode de déplacement. Il y a eu effectivement des ajustements, un premier ajustement en tout cas qui a été fait pendant ce premier mois, notamment un trajet sur Numbo qui a été déplacé sur Nouville par manque de fréquentation, en fait, tout simplement pour éviter de faire partir des bateaux à vide et pour privilégier la destination où il y avait une vraie demande sur cet horaire-là en particulier. Et on étudie d'autres possibilités de faire évoluer le dispositif sur le temps qui nous reste pour aller tester encore d'autres destinations et pouvoir exploiter ce projet expérimental au maximum.
Un projet pilote mis en place par l'ACE et soutenu par l'Agence de la transition écologique et le gouvernement. La mise en place de ces navettes maritimes permet de développer un nouveau mode de transport en commun et d'envisager de nouvelles routes pour optimiser les émissions de gaz à effet de serre par passager. Christopher Gigès, membre du gouvernement, en charge justement de la transition énergétique.
Oui, la transition énergétique, c'est pas que le développement de fermes d'énergie renouvelable, c'est aussi le transport. Et on voit qu'avec le développement de ces navettes maritimes, on permet aussi de décarboner le transport en Nouvelle-Calédonie. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut montrer une exemplarité sur les modes de transport, comment on décarbone moins, mais il faut surtout que ça soit utile à la population. Et je crois que ces navettes maritimes, on l'a vu sur le Mont d'Or, ont été extrêmement utiles pour désenclaver certaines zones. Et on a voulu monter ce projet pilote sur la partie également Nouville et Nimbo au départ de Port-Moselle pour montrer qu'on peut venir du centre de Nouméa pour aller vers Nouville, pour aller vers Nimbo, éviter les grands embouteillages de la zone de Ducos notamment ou de l'entrée de Nouville. Et donc je crois que c'est une opération qui a rencontré un plein succès.
Mais l'expérimentation n'est pas terminée. Les navettes maritimes mises en place par la CE entre Port-Moselle, Nouville et Nimbo continuent leur voyage pendant encore 2 mois. Et puis une info pratique, le Betticho annonce une rotation supplémentaire vers les îles Loyauté ce jeudi. Le navire effectuera une rotation Nouméa-Marée-Lifou, puis retour à Nouméa. Réservation sur le site du Betticho, en agence ou par téléphone au 26 01 00, 26 01 00 pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Radio Rythme Bleu, 18h16.
Oui, et le plus grand catamaran en Nouvelle-Calédonie s'est amarré cet après-midi vers 17h. Le Nautilus 360 était attendu de tous sur les quais de Port-Moselle, Sarah Mégerie.
Le navire fait 24 mètres de long, 11 mètres de large, avec une capacité de transport de 30 personnes. Le Nautilus 360 est considéré comme le plus grand catamaran en Nouvelle-Calédonie. Des curieux, surtout des familles, sont venus en nombre pour accueillir le navire sur les quais de Port-Moselle.
Je pensais qu'un catamaran de cette taille-là, c'est pas tous les jours qu'on allait le voir arriver à Nouméa. Puis j'ai une amie qui m'en a parlé ce matin au travail, donc on s'est dit qu'on allait venir admirer tout ça. Je le trouve assez imposant, les enfants avaient l'air de dire c'est tout, mais il est grand quand même.
De loin, il paraît plus petit, mais c'est vrai, de près, il est grand.
Oui, et là, je viens de voir qu'il est en effet plus grand que ce que je pensais.
Je suis un peu curieux de voir des voiliers et catamarans aussi imposants, c'est intéressant et j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je m'attendais aux deux mâts, et alors par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi imposants. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir le visiter.
Le visiter sera possible dans le cadre de son projet Immersion au cœur des lagons de la Nouvelle-Calédonie. Le Nautilus 360 sera mis au service de plusieurs organismes pour faire découvrir aux Calédoniens les richesses du lagon, explique Bastien Preuss, skipper et docteur en écologie marine à l'Université de Nouvelle-Calédonie.
Ce catamaran a pour vocation aussi de servir de plateforme pour emmener que ce soit des scientifiques, des associations, des ONG qui ont besoin d'un support adapté à leurs besoins pour aller sur l'ensemble des récifs de la Nouvelle-Calédonie pour les suivre. Si on a besoin de gros matériel, on va pouvoir charger plusieurs tonnes de matériel. C'est les capacités d'emport aussi des personnes. On va pouvoir, avec 8 plus 2 cabines, emmener pas mal de monde. C'est aussi les capacités en autonomie. On va pouvoir partir plusieurs semaines sans problème. Donc tout ça fait que ce navire permet d'offrir des possibilités nouvelles et aussi en termes d'énergie à bord. On a beaucoup de place, on va pouvoir avoir des écrans, du matériel audiovisuel, un mini laboratoire, on a de l'électricité grâce à des panneaux solaires, un groupe électrogène sans souci à bord pendant des durées importantes.
Le Nautilus 360 sera aussi mis à disposition des écoles pour des expéditions scolaires et des ateliers de sensibilisation de l'environnement marin.
Merci beaucoup, Sarah Mégerie. La Calédonie a connu ce week-end un épisode de chaleur exceptionnel. Des températures au-dessus des normales de saison dues à un anticyclone venant de la mer de Tasman. En conséquence, en fin de semaine dernière, un flux de nord s'est installé sur le territoire, entraînant la venue de masses d'air chaude, entraînant également des records de température par endroit. Les précisions d'Olivia You, météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
On a eu des températures qui ont été, je dirais, 2 degrés au-dessus de la normale sur la côte est, sur les Loyautés, et jusqu'à 5 degrés, voire 7 degrés de plus à Népouine. À noter que sur la côte ouest, l'effet de Fun a accentué la hausse de ces températures. C'est dû au fait que l'air instable et chaud qui est transporté par le flux de nord, lorsqu'il franchit la chaîne et qu'il arrive sur la côte ouest, il subit en aval de ce franchissement un assèchement et un réchauffement. Donc à certains endroits de la côte ouest, on a pu mesurer plus de 30 degrés, comme à Koumbak, à Poya, à Bouraï, à Bouloupari et à Païta aussi.
Cet épisode de chaleur est désormais terminé, même si par endroits, les températures sont toujours élevées. Nous retrouverons des normales de saison comprises entre 16 et 25 degrés d'ici la fin de la semaine. Pour les prévisionnistes de Météo France, c'est le phénomène de la Niña qui prédominera les trois prochains mois, avec un air qui va peu à peu se réchauffer. 18h20, l'heure de passer à la météo, mais cette fois-ci des prochains jours.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors c'est bien l'heure de la météo, dites-nous tout Nicolas.
Alors cette nuit, l'ouest bénéficiera d'un ciel bien étoilé. Les autres régions verront passer des cumulus qui déposeront quelques ondées sur l'est, puis également en cours de nuit sur l'île des Pins et la pointe sud. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, voire 20 nœuds sur la pointe nord, faiblissant progressivement sur le nord-ouest autour des 10 nœuds. Les températures minimales seront légèrement supérieures aux valeurs de saison, entre 15 et 21 degrés. Elles descendront toutefois localement autour de 12 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, sur l'île des Pins et Marais, le beau temps dominera. Ailleurs, les passages nuageux se feront plus présents en cours de matinée, même si la côte ouest sera bien ensoleillée en début de journée. Quelques averses seront possibles sur l'est. L'alizé de sud-est se renforcera autour de 20 nœuds, avec parfois des rafales à 30 nœuds sur l'est, la pointe nord et le sud-ouest.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.